J'ai vu, je sais qui c'est, mais je dirai rien.
Un vrai tueur, le meilleur de toute la ville.
Il s'appelle juste Leblanc.
Ah bon, il n'a pas de prénom.
Vous écoutez ce que je raconte là ou je suis en train de pisser sur un violon là ?
Bonjour et bienvenue dans Scope, l'émission qui vous parle de cinéma sur Radio Campus tous les mercredis de 16h à 17h, même en ce jour de la grande révélation. Le monde vit à crédit, on est à l'aube de la Troisième Guerre mondiale, Marty s'est fait voler l'Almanach, il n'y a plus aucune échappatoire, Biff c'est Donald Trump, et il n'y a même plus de Véry Parfait au McDo. Et le cinéma aussi, tout va mal, il y a Mandalorian qui s'est ramassé, et la super production de Pathé en deux films sur De Gaulle en Algérie fait un flop historique pendant que y a ces petits films originaux. Là, obsession, backrooms, je sais pas quoi, par des jeunes réalisateurs qui arrivent à toucher le public, à atteindre des scores dantesques et à faire entendre leur voix unique. Comment on va faire ? Vite, vite, faut sortir une grosse franchise. Non, mais faut faire quelque chose. Il y a bien quelque chose, on peut pas les laisser faire. Il y a bien un reboot à faire. Il y a une fenêtre quelque part entre Toy Story 5 et Spider-Man V4 épisode 3 ou Les Mignons. Sinon, sortez-moi un gars connu. Là, il y a Nolan qui fait Titanic chez Gladiator ou je sais pas. Trouvez-moi un plus grand que lui encore. Comme ça, on met dans le trailer qu'il a des Oscars et tout. Je sais pas. il est occupé, Shyamalan. Michael Bay, il fait quoi ? Il fait Skibidi, Tarantino. Dépression nerveuse, d'accord. Plus vieux alors, Eastwood, Hitchcock, il est dispo Hitchcock, Spielberg, oui, Spielberg, c'est très bien Spielberg, c'est super. Il fait quoi là ? Il a un nouveau film. Génial, c'est quoi ? C'est nouveau Jurassic Park, Indiana Jones dans le dédale de la commune, le retour de la guerre des mondes avec Tom Cruise qui doit survivre au bus 71, rencontre du quatrième, un film original. Mais, et c'est de la SF. Non mais ça marche plus ça, et en plus il va nous mettre des symbolismes de partout là, essayer de dénoncer des choses, ça sert à rien. Moi je préfère un bon vieux Minority Report ou intelligence artificielle, juste bonne vieille aventure en surface, pas prise de tête. Vous êtes sûr il veut pas faire le retour de Schindler, l'Eurostar de la terreur, ça marche? Comment ça Disclosure Day a fait la meilleure ouverture d'un film par Spielberg avec 93 millions de dollars? Non mais Steven, à la SF, ça a toujours marché du tonnerre, hein. Moi j'ai toujours dit, faudra en parler à la radio. Hein. Et bah c'est notre sujet d'aujourd'hui, à l'occasion de la sortie mercredi dernier de Disclosure Day, le nouveau film du grand prêtre Steven Spielberg, qui revient à son grand amour des soucoupes volantes. On revient évidemment sur cette nouvelle entrée dans sa filmographie de 36 longs métrages. Mais surtout, on vous propose de regarder d'un œil plus attentif les essais du cinéaste au genre de la science-fiction. Un échantillon de 8 films, soit un simple extrait dans son œuvre globale, et pourtant sûrement certaines de ses plus marquantes, avec E.T. ou en passant par Jurassic Park. Quelques moments clés de sa carrière qui nous permettront de vous mettre en avant les marqueurs, les thèmes et l'identité de ce cinéaste, pas seulement dans ce genre, mais à travers toute sa filmographie, et avec cette question, c'est quoi l'ASF à la Steven Spielberg ? Mais avant ça, on vous fera bien sûr une revue de ce nouveau film, et bien évidemment, je ne serai pas seul, mais très bien accompagné pour démêler le vrai du faux de ces images. À la technique, il gère derrière son écran transparent comme Tom Cruise avec ses gants, c'est Mathias.
Salut tout le monde.
Elle fait des magnifiques montages photos comme John Hammond ressuscite les dinos, c'est Priscilla.
Salut.
Les trains de la SNCB lui gâchent la vie, mais on attend toujours son arrivée comme celle des ovnis, c'est Sarah.
Coucou.
De Jurassic Park, elle a la puissance des dinos, mais d'AI, elle a le charisme de Jude Law, c'est Victoria.
Salut tout le monde.
Et enfin, il émerge de terre comme les tripodes d'HG, donc il ne fera pas de blagues sur Jules et qu'on les appelle l'OVNI, c'est moi, Martin, qui vais vous présenter cette émission que j'avais très hâte de faire sur, évidemment, le réalisateur Steven Spielberg et l'un de ses, sinon son genre de prédilection, la science-fiction, à l'occasion de la sortie de son nouveau film, comme nous disions. Mais avant de vraiment rentrer dans cette filmographie très dense...
Laissons les gens qui nous écoutent respirer et se garer sur le bas-côté après cette intro...
Qui nous a régalé.
Cette émission est sponsorisée par le café.
Je l'ai même pas encore bu. Wow. Parce que sinon, il est trop chaud. Voilà. Mais voilà, on va d'abord revenir sur ce nouveau film Disclosure Day sorti la semaine dernière. Donc Victoria, tu l'as vu et moi de même. Victoria, est-ce que petit pitch comme ça spontané, de quoi ça parle ?
De quoi ça parle? Ok, si on laisse de côté la mise en abîme du film dans la structure qui est assez brumeuse, on va dire, pour un peu vous aider pour entrer dans l'histoire, parce que c'est vrai que vu la structure, c'est pas évident d'y voir clair. En gros, Josh O'Connor, que vous connaissez peut-être, c'est un acteur de la nouvelle génération qui, je trouve vraiment d'être ça, c'est un super acteur et tout. C'est un petit genou de la tech du gouvernement qui est en cavale parce qu'il a piqué un truc qui était pas censé piquer. Et c'est un truc un peu dangereux parce qu'il est sur le point de révéler la vérité, une vérité détenue par le gouvernement qui est pas très gentil et qui est dirigée par Colin Firth qui est méchant, truc qu'on voit pas vraiment au cinéma en général.
C'est vrai.
Et donc il va devoir essayer de gérer cette détention de cet objet mystère dont vous comprendrez l'utilité plus tard, et son destin va se croiser d'une manière que vous allez comprendre plus tard avec celui de Emily Blunt qui était une présentatrice météo qui avait rien demandé, qui était super parfaite, sauf qu'à un moment elle va avoir une sorte de malaise vagal en live, sauf que peut-être que son malaise a peut-être une signification un peu significative, voilà.
Une histoire très dense, vraiment.
Voilà.
C'est compliqué, cette histoire de Josh O'Connor qui est donc à la menace de, on peut le dire, on a tous vu les soucoupes volantes dans le trailer, qui menace de dévoiler au monde l'existence des extraterrestres et surtout qui cherche un moyen de le faire, qui va en être empêché de différentes manières par Colin Firth, méchant PDG de grandes institutions gouvernementales, inséré CIA, FBI,
la classique,
mais en secret. Et en même temps, c'est le moment où Emily Blunt décide de devenir Neo dans Matrix, l'élu qui peut parler à tout le monde et qui doit devenir pote avec Josh O'Connor. Toi, est-ce que ça t'a perdu ou est-ce que ça t'a emporté jusqu'au septième ciel dans les étoiles?
Je suis un peu mitigée parce qu'en fait, devant le film, déjà, encore une fois, j'ai parlé de la mise en abîme, un peu disclaimer, si vous aimez pas les films qui commencent directement, accrochez-vous, j'ai envie de dire, parce que, encore une fois, je disais que la mise en abîme prenait son temps, et c'est vrai, ça c'est un truc que je reproche un peu au film, c'est un parti pris à part entière de vouloir commencer un film en volontairement ne laissant pas d'indice clair à la personne qui regarde le film, donc pendant un bon 15 minutes, on nous embarque dans une action qui a déjà commencé. Il y a beaucoup de non-dits, de tabous, on sait pas ce qui se passe. On est un peu en POV de la copine de Josh O'Connor qui comprend rien à sa vie, nous non plus, parce qu'on n'a pas d'indice pendant 15 minutes. Et après,
un peu plus même.
Oui, un bon 20 minutes. Et après, les choses commencent un peu à se développer, à se démêler. Et on commence un peu à avoir un peu de recul sur ce paysage qui commence un peu à se dégarnir. Mais oui, ça, c'est un truc que je reproche un petit peu au film. Donc au début, j'étais pas trop dedans parce que je me disais, est-ce que c'est vraiment nécessaire toute cette forme un peu, j'ai pas envie de dire putassière, mais un peu de, je sais pas, de venir titiller, on va dire, l'attente du spectateur ou de la spectatrice. Mais en fait, une fois qu'on est dedans, y a le côté un peu Spielberg qui arrive, et en fait, il y a des scènes qui sont magiques et qui m'ont laissé vraiment bouche bée, dont par exemple les phénomènes qui arrivent plus ou moins avec Emily Blunt. En fait, ce qui lui arrivait, j'étais vraiment bouche bée, ça m'a eu, en fait. Ça m'a eu. Et notamment la scène de la chambre, que je vais pas expliquer en quoi elle consiste, parce que sinon, ça va spoiler le film. Mais en tout cas, cette scène-là, j'étais vraiment en aspiration complète avec ce qui se passait, j'étais vraiment fascinée. Quoi.
Sans rien dire, la première arrivée dans la chambre ou quand il se passe un truc dans la chambre?
Quand il se passe un truc dans la chambre. Oui.
D'accord, parce que moi c'est vraiment la scène où elle arrive dans la chambre et donc pas seulement cet espace, je pense que c'est ma scène préférée du film
où
ça m'a foutu les frissons.
Et c'est un côté un peu retour au Spielberg en fait.
C'est
un lieu mythique et t'as un peu des frissons parce qu'il y a cette présentation, cette maison et tu sens qu'il y a un truc spécial dedans et il y a un côté un peu familier, réconfortant, bizarre. Quoi.
Justement, c'est le lieu mythique de Spielberg en fait. Le moment en fait il revient dans son espace de prédilection du coup avec les thèmes qu'on lui connaît. Moi je dois dire que après avoir vu ce film je me suis tout de suite dit que c'est pas le meilleur des Spielberg. Je le mettrai jamais à la hauteur d'un Jurassic Park. Je pense que Jurassic Park est mon préféré de lui. Je le mettrai pas à la hauteur d'un E.T. ou d'un Attrape-moi si tu peux, mais c'est un film qui, je pense, a la valeur d'être un film somme. En fait, l'une des premières choses que j'ai pensé déjà en sortant, même pendant le film, c'est que je pense que c'est celui de sa filmographie qui ressemble le plus à un blockbuster que je pourrais voir de n'importe qui d'autre. Je vois par exemple les lens flares bleus qui s'étendent à tout l'écran. Je me dis, on est chez J.J. Abrams, on est où? Il y a des scènes... il avait l'air très lambda d'une certaine manière, et je pense qu'il peut plaire à plein de gens qui vont pas trop se poser la question de l'auteur, de qui est-ce qui est en train de le faire, est-ce que c'est un bon Spielberg ou pas. C'est un film qui marche en lui-même, qui a cette histoire un peu de SF, de mystère, qui va tenir ce suspense en fait de qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va essayer de montrer, même si on le devine assez vite, et en fait j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment de payoff à ça. On s'attend à ce qu'il y ait une grosse scène, sauf que plus ça avance, plus on fait « mais qu'est-ce que je suis en train d'attendre en fait ?»
Oui. Et donc vous comprenez les avis mitigés du film ?
Je comprends totalement les avis mitigés. Moi personnellement, je suis allé le voir en plus avec deux personnes qui n'ont vraiment pas aimé.
Okay.
Une personne qui a un peu pas trop aimé et une personne qui a vraiment détesté. Donc c'était, j'ai entendu aussi l'autre côté de l'avis sur ce film, avec plein de défauts que je vois également. Mm-hmm. Par exemple, on voit dans la bande-annonce un moment qui va reprendre... comment ça s'appelle déjà, les crop circles, donc ces motifs dans les champs de blé qui sont concentriques, qui font des traits, qui font des cercles, qu'on apparente à des invasions aliens. On le voit dans le trailer, il apparaît dans le film et c'est jamais réabordé. On sait pas comment c'est fait, on sait pas qui l'est fait, ce que ça veut dire. Et j'avoue, ça peut être dérangeant. Les personnages peuvent être un peu clichés. Moi, j'ai pas trop aimé la performance.
De Josh O'Connor en particulier,
de tous. Emily Blunt, alors j'adore ce qu'elle fait là avec ses bruits de gorge qu'on avait dans la bande annonce, et je me dis ok, le sound design est fou, il y a quelque chose, et c'est ce qui m'a le plus hypé pour ce film. Mais je suis pas toujours convaincu par sa performance ni par Josh O'Connor. C'est pas mal des archétypes. Il y a éventuellement Colman Domingo qui me parle beaucoup. Cependant, même avec tous ces défauts, si en tout cas si l'aspect blockbuster général vous dérange, moi, il y a une chose qui me plaît beaucoup. Je ne sais pas si le son vient de dehors ou du couloir. S'il y a un truc que j'aime, c'est qu'il a cette valeur de film somme. En fait, j'ai l'impression de voir plein de motifs de Spielberg. Je vois quand même des scènes qui me prennent. La scène du train là, avec la voiture qu'on a vue à plein d'endroits de la com et qui reprend la scène de duel. J'adore. Enfin, ça me prend complètement. La scène d'action est réussie. C'est déjà ma scène d'action préférée de l'année pour l'instant. Ça m'a scotché à mon siège. Il y a cette autre scène. Donc du coup, juste avant, sans en dire trop, avant la chambre, c'est là, mais j'ai presque les larmes dans les émotions. Là, Emily Blunt, elle me prend. Mais surtout, il y a toute cette métaphore en fait du réalisme, de la création de décors en fait dès le début où on comprend pas trop, et ça c'est presque plus, ça m'a plus pris en suspense. Ça, on comprend que quand il fait cette histoire de suspense c'est pour autre chose, mais il y a cette histoire de maison de décor avec Colman Domingo qui commence et je fais ok, là il y a du mystère, là ça me prend. Et en fait il y a tellement de motifs que j'adore, que je reconnais du réalisateur, soit qu'en fait je vois de la création dans ses commentaires méta, que ça arrive à me prendre, et que si dans le divertissement ça marche moins que d'autres films et ça ressemble à beaucoup de choses, bah, juste ça me prend. Et en fait dans une autre dimension, il y a le style de Spielberg que j'adore, ses plans séquences, sa manière de découper, de faire la lumière, j'adore.
Bah écoute, moi je trouvais qu'il y a plein de moments, il y avait un petit côté film d'action un peu, parce qu'il y avait beaucoup de
courses
de voitures et tout. Et en fait, il y a plein de moments, enfin ça peut paraître un peu bête, mais en fait il y a des fois où je me disais, mais enfin je me rendais pas compte que je regardais un Spielberg. Je sais pas comment expliquer, en dehors des scènes d'action, il y avait des moments où je l'oubliais.
C'est un peu paradoxal,
oui. Et par contre, moi je suis pas d'accord. Moi je trouvais que le duo Josh O'Connor et Emily Blunt fonctionnait bien. Enfin en tout cas, moi j'aimais bien leur alchimie à l'écran. Et même moi qui aime pas tout le temps trop Emily Blunt, je trouve que il y a une scène juste après le train, bon c'est pas un spoil ni rien, mais elle fait une crise d'angoisse, et je trouvais que ça
c'est intéressant.
C'était vraiment très très bien. Et contrairement à toi, je trouve que la scène du train, elle est bien, mais elle est un peu trop longue, et je trouve que ça joue un peu trop du côté, enfin je prends le spectateur ou la spectatrice en haleine pendant cette scène là quoi. Je trouve que c'était un peu trop long quoi, en termes de rythme.
Je rebondis sur quelque chose que vous avez dit tous les deux, c'est, vous avez dit que oui, j'avais pas l'impression de regarder un Spielberg. Est-ce que vous trouvez que c'est quelque chose de rare dans sa filmographie? Parce que pour le coup, moi, pas spécialement, et je pense que le grand public non plus. On voit pas tel film en se disant, ah oui, ça c'est absolument Spielberg, je reconnais.
Je suis d'accord.
Ça va se recouper avec ce dont on va parler après, vu qu'on va aborder ces thématiques. Mais je me dis aussi, il y a plus d'un film où on ne voit pas Spielberg, où il arrive à se cacher. Ça, c'est quelque chose qui dit, je vais sûrement ressortir la citation après ça, je devrais la retrouver, où il dit qu'à chaque film, il a envie de faire comme si c'était un autre réalisateur, où il n'a pas envie de reproduire son style. Pour moi, c'est une limite. Enfin, on ne peut pas prétendre à ça, on ne peut pas prétendre être un caméléon parfait. Je ne pense pas qu'il le soit autant qu'il souhaite l'être. Mais moi, en connaissant son style, je revois son style dans ses plans séquences, comme je disais. Enfin, on a Janusz Kaminski qui revient en tant que chef-op. Maintenant, ça fait 20 ans qu'ils bossent ensemble. Mais dans une optique peut-être du plus grand public qui va pas se poser ces questions, on va s'attendre à la famille avec Spielberg, on va s'attendre à de l'émerveillement, et là en fait on est tellement ancré dans du politique dans du sérieux et dans du blockbuster, bah là J.J. Abrams comme j'ai dit ou comme d'autres pourraient le faire, que c'est pas vraiment ce qu'on peut attendre d'un Spielberg, au point où quand la famille arrive et c'est seulement à la moitié voire aux deux tiers du film, je fais tu pouvais pas t'en empêcher. et je le vois derrière l'écran en mode j'avoue, désolé les gars, je suis là. Donc voilà, c'est pour ça c'est intéressant en tant que en tant qu'objet tout seul, il peut être assez lambda, mais en tant qu'objet dans la filmographie de Spielberg, moi j'ai presque envie de sortir un gros mot, enfin un grand mot qui va faire se poser des questions sur l'évolution de sa carrière. J'ai l'impression qu'on entre dans du post-Spielberg.
Ok.
Moi déjà quand je voyais Fablemans, j'avais ce fantasme de ah, c'est il a fait la boucle, il est au bout de sa carrière, il pourrait. Malheureusement, on espère qu'il ne meurt jamais et continue à faire des films, mais il pourrait mourir là, ce serait beau, tu vois, c'est parachevé, c'est la colonne. Et je me dis, est-ce que là, on est dans une post-carrière et en fait, on peut se dire, ah, vu qu'il s'autocite, sauf qu'il s'autocite déjà dans Ready Player One, enfin, de la référence, même s'il essaye de se limiter, on va retrouver ses motifs. Et en fait, c'est plus on analyse, plus on voit qu'il se cite déjà beaucoup. Mais là, quand je vois ce film, j'ai l'impression qu'il va prendre plein de morceaux. Le moment où elle va parler à différentes personnes, Emily Blunt, dans, alors parfois ça va être dans notre langue, parfois c'est en prenant. Enfin, elle va avoir plein de dispositifs pour réussir à communiquer avec les humains. Moi, je vois Minority Report, je vois cette scène où la précog, elle dit rentre pas chez toi, il va se passer un truc. Ah oui, il te trompe, ou des choses comme ça. C'est exactement la même chose. La maison, là, quand on va avoir ce motif, c'est la maison de E.T. On va reprendre plein d'éléments. Rencontre du troisième type, il inonde ce film, et je le vois même. Reprendre d'autres films, là on en parlait en antenne, avec toute cette histoire d'Alien, c'est vraiment beaucoup Premier Contact ou juste Contact, je sais plus, de Robert Zemeckis, qu'en plus j'ai eu la chance de voir récemment, au point où parfois il y a des silences dans les répliques et je les complète avec la réplique clé de Contact de Robert Zemeckis, c'est j'espère qu'on n'est pas seul dans l'univers, sinon it would be an awful waste of space, ce sera un immense gâchis d'espace. Il y a un moment, elle arrête sa phrase et où elle dit vous imaginez si on serait seul, et je dis la phrase tout seul dans mon siège, je fais bah dis-le. Et il y a tout un arc sur si on le dit toutes les religions vont devenir folles parce que ça remet en cause toute l'existence de Dieu. C'est un débat qui est beaucoup plus creusé dans ce film de Robert Zemeckis que dans ce Spielberg, donc c'est dommage, c'est une limite, mais c'est tellement une somme de tout ce film qu'en fait en tant qu'objet d'étude au sein de sa carrière et des thèmes qui sont abordés et des commentaires méta et même juste certains plans, il y a un moment où on va essayer de nous montrer un plan d'un ordinateur au lieu de juste faire le dos de l'ordinateur pour avoir le visage de l'actrice devant, après on va être derrière elle pour regarder l'écran, il va faire la caméra, elle va monter en arc de cercle, elle va spin, donc du coup l'écran il repasse, l'endroit passe à l'envers, l'envers passe à l'endroit, puis on rentre dans l'écran et il fait une référence à la liste de Schindler avec comment c'est filmé et tout, il fait un lien et mais c'est incroyable. Et en fait que ce soit simplement par son style qui me plaît personnellement ou le lien avec sa carrière, je pense que c'est un film qui restera passionnant dans son étude plus que son appréciation de divertissement.
Et qui nous permet ici de nous replonger dans le volet SF de sa filmo.
Oui, c'est ça. Bah, avant ce film, on disait que Spielberg il avait une trilogie des extraterrestres. Il commence avec Rencontre du troisième type, qui est un peu au milieu. Est-ce qu'on est positif, est-ce qu'on est négatif? On arrive avec E.T., bon, ils sont gentils les extraterrestres. Puis on fait la guerre des mondes et on fait ah, les extraterrestres, ils sont méchants. Et c'était la trilogie. Là, il revient presque au centre, donc ça recoupe avec le fait qu'ils rebondissent de nouveau. Il ressaute sur Rencontre du troisième type. Et ouais, ça parachève et c'est pour ça qu'on est dans du, j'ai envie de dire, post-Spielberg. Le cercle est déjà fait. Maintenant, on va réarpenter ce sentier, se dire qu'est-ce qu'on peut faire. Et il essaye de parler aussi de la politique du présent, de la politique Trump.
Après. Je croyais que c'était une touche un peu posthume à la thématique, en fait. C'est...
Carrément,
en fait,
carrément.
Après, il dit « Ah, en fait, j'ai juste envie de juste apporter ce point-là, puis après, je me barre. » Enfin, il y a ce côté-là, en fait. Je voulais juste aborder cette vision-là de la thématique, et après, voilà, vous en faites ce que vous voulez.
Ça va ressembler au reste. Le design des extraterrestres, c'est celui qu'on imagine d'un extraterrestre en général, quoi. Il va reprendre Roswell, qui est la base de tout l'imaginaire de l'invasion et des petits hommes verts. Il va même référencer d'autres choses. Il y a le moment où Josh O'Connor, on va être un peu dans l'infiltration, comme ça, il doit se faire discret. La caméra, elle vole, le plan est dur, et ça le pose un peu à gauche de l'écran. Pour moi, c'est la caméra d'Uncharted. Pour moi, c'est Uncharted, c'est un moment d'infiltration comme ça, où elle a Hitman. Et on sait que Spielberg est un grand gamer. Pour moi, il a pris cette inspiration-là. Donc, il continue de citer des choses, il continue de citer ses passions, et pas se limiter à lui-même. Pour moi, il cite Zemeckis, comme je disais. Il cite Abrams dans son image. Et oui, en fait, il se dit, il y a déjà un tour d'horizon qu'il y a à faire. Moi, je vais pas vous réinventer ça. J'ai déjà fait pas mal de travail, les copains. il va essayer de voir ce que les autres ont fait. On sait que c'est quelqu'un qui est très à l'écoute. Là, je faisais la blague dans mon intro avec Obsession et Backrooms. Et il dit, ah, ça, j'ai déjà vu, ça, j'ai pas vu. Mais il est super admiratif de ces personnes. Et il est pas du tout dans une optique de vieux monsieur. J'ai entendu des gens dire que le film est un film un peu de vieux monsieur, je vois ce qu'ils veulent dire. Il aborde pas du tout Internet et c'est un point, ça j'avoue c'était drôle. Elle est au téléphone avec un personnage, est au téléphone avec quelqu'un et elle doit savoir quelque chose qui est sur Internet. Elle dit, est-ce que t'as un ordinateur à côté de toi pour chercher ça?
Ah,
alors qu'elle est sur, elle est sur un iPhone.
La classique.
Oui, c'est vrai.
Et tu fais, waouh, ok, d'accord, décalage, mais ça rend pas le film moins intéressant pour autant, je dirais.
J'ai une petite question pour vous deux qui l'avez vu, enfin deux questions. La première, c'est est-ce que les points négatifs du film, pour vous, il y en a qui sont liés au scénario? Pourquoi je pose cette question? C'est parce que le scénario, il est de David Koops, celui qui a fait Jurassic Park, Mission Impossible.
Son fétiche, scénariste fétiche.
Ouais, voilà, c'est ça. Et l'autre question, c'est comment est la musique de John Williams là-dedans, qui a encore fait une musique de film à 94 ans? Je trouve ça assez spécial.
Pour la musique, j'ai beaucoup aimé celle qui était, qu'il y avait dans la scène de la chambre où il se passe un truc. Voilà, je vais l'appeler comme ça parce que là-dedans, en fait, la musique contribue à la mise en apnée de la scène. Il se passe un truc magique dedans, on va pas vous expliquer parce que ça fait partie, c'est un peu la scène clé du film. Je
pense. Grand fan des contes en plus, Spielberg, il a fait Peter Pan, il a cité Pinocchio dans Rencontre du troisième type.
Oui, il y a vraiment ce que. Et dans Intelligence artificielle aussi d'ailleurs.
Oui, bien sûr.
Le film, on en parlera après. Mais en tout cas, cette scène-là, je trouve que sans la musique, ça aurait pas été pareil. Donc pour cette scène-là, la musique était vraiment bien. Et pour ce qui est du scénario, on va dire que c'est pas celui qui me. Enfin, qui me tenait le plus en haleine chez Spielberg non plus. Dans son cinéma, je trouvais qu'il y avait certaines répliques ou certaines façons d'aborder certaines thématiques qui étaient peut-être un peu convenues ou que peut-être moi ou quelqu'un du public pouvait peut-être deviner à sa place aussi et écrire un peu comme ça aussi, quoi.
Je vais commencer par John Williams aussi. Citation, Steven Spielberg disait vis-à-vis de sa collaboration avec John Williams, moi, mon travail, c'est réussir à amener la larme à l'œil du spectateur, mais c'est John Williams qui l'a fait couler.
Bien sûr.
C'est vraiment vrai. C'est très vrai. C'est vraiment vrai. Et ben là, pour la scène qui m'a mis les frissons, je suis dans mes émotions, donc mon organe d'analyse est un peu atténué, mais en même temps j'ai envie de chialer. C'est grâce à toi, John. C'est Steven, merci. Mais John Williams, vas-y.
Vraiment.
Parce que ouais, malheureusement on voit les images d'enregistrement de John Williams et beaucoup de gens le disent et je suis d'accord avec eux. Je crois que c'est la dernière collaboration qu'on a avec John Williams et Steven Spielberg. John Williams, on l'a vu debout qui dirige Star Wars, bah là il est dans sa chaise, on comprend, il parle pas beaucoup. Malheureusement on s'inquiète beaucoup pour John Williams et plein de personnes sont assez tristes de dire je crois que c'est la dernière collaboration qu'on a entre les deux sur ce film qui les a un peu déçus. Je comprends que c'est triste, mais là il fait un travail correct qui dans une scène me tape de plein fouet, mais je vais pas dire que c'est une BO mémorable.
Okay.
Et pour le scénario, je sais que de toute façon Steven Spielberg il change le scénario tout le temps, il a des idées à 5h du mat, il arrête pas de le dire. Les acteurs ils disaient parfois j'ai dormi, Steven Spielberg il a fait plus d'heures que moi et je me réveille, je vois un message 5h30 du matin, qu'est-ce que tu fais debout, tu as 79 ans il y a 79 ans pardon. Et en fait je pense oui, il y a des facilités, il y a un peu une sorte d'outil magique qui fait un peu qui peut être une simplicité scénaristique et il y a quelques facilités et en même temps il y a l'avantage que l'histoire peut être un peu dur à démêler. Dès le début on a dit qu'il y avait plein d'éléments et qu'on pourrait s'y perdre. Moi je m'y perds jamais, j'ai jamais l'impression, à part quand je me dis qu'est-ce qui est censé me faire le suspense, ça c'est parce que je m'intéresse sur le scénario, ok, quel élément du scénario, oui. Voilà. Mais dans la compréhension de l'histoire, alors que ça pourrait me perdre, il y a trois factions voire quatre qu'il faut suivre en même temps, en alterné, je suis pas perdu.
Donc c'est quand même bien ficelé.
C'est peut-être le montage qui arrive à bien reconnecter les points. Mais en termes de compréhension de l'histoire, déjà c'est une sacrée pirouette de réussir à tenir la corde. Eh bien, je crois qu'on a fait un bon tour de Disclosure Day qu'on vous invite à voir vous-même pour vous faire votre propre avis, le film Somme de Steven Spielberg de 2026. Oui, bah c'est super appréciable quand même.
Oui, oui.
Maintenant, on va faire une analyse de sa carrière, mais avant ça, une petite pause musicale sur un élément qu'on a déjà soulevé. Dans la BO de Rencontre du troisième type, un petit clin d'œil à un film Disney. On vous laisse le découvrir, c'est maintenant, on se retrouve après la pause. Thank you.
c'était la bande originale de Rencontre du troisième type, évidemment orchestrée par John Williams, un morceau When You Wish Upon a Star, évidemment repris de Pinocchio. Oh, j'ai parlé comme Loeb. Le morceau When You Wish Upon a Star de Pinocchio de Walt Disney. J'adore Loeb. Évidemment, référence à Disney, pas la seule dans la filmographie de Steven Spielberg qu'on va s'atteler à analyser aujourd'hui. On revient d'une critique de son nouveau film Disclosure Day, mais maintenant on part vers le passé. Mais de nouveau, Blow-up, on part vers le passé.
Tu regardes trop.
Analyser une filmographie et pas des moindres. Alors, déjà, vous, autour de la table, Victoria, Priscilla, Sarah et Mathias à la technique, quand on dit Spielberg, c'est quoi les thématiques ou même des images simplement, c'est quoi le premier film ou la première image qui vous vient à l'esprit?
J'ai très envie d'imiter le cri du T-Rex, mais je vais me retenir. Mais oui, les dinosaures au cinéma, c'est la première image, je pense, ouais.
Moi, c'est terrible, mais en vrai, je pense que j'avais un peu oublié Spielberg. Et c'est vraiment juste en retravaillant l'émission que j'ai redécouvert. Et c'était pas du tout ce qu'ils imaginaient. Je pense que j'imaginais quelque chose de plus enfantin. Mais du coup, quand j'ai vu certains films, il y a l'enfance comme thématique, mais c'est pas du tout enfantin. Mais le film, je pense que peut-être qui marque de mon enfance, ce serait Hook, je pense, c'est ça. Hein,
ah ouais, oui, ouais. Hook ou La Revanche du Capitaine Crochet.
Celui-là, j'ai beaucoup regardé quand j'étais
avec Robin
gamine.
Williams.
Mais je pense que c'était plus un film de Robin Williams que de Spielberg. Et donc, l'association, c'était pas fait dans mon esprit.
Toi, Victoria, est-ce que t'as une thématique ou même simplement une image d'un film, un film en particulier? C'est quoi, quand tu te dis Spielberg, c'est quoi qui te vient?
C'est moins des images. Enfin, parfois j'ai des petits flashs, on va dire, de E.T. ou Indiana Jones ou l'autre film comme ça, mais c'est plus en termes de thématique. Bah, c'est l'un des cinéastes à avoir le plus abordé le thème de la famille. Enfin, c'est un truc très matriciel dans son cinéma. Et aussi, c'est l'un des rares bons cinéastes à bien aborder la thématique de l'enfance. Enfin, en tout cas, à donner une bonne voix aux enfants qui, quand ils sont protagonistes, ne tombent jamais vraiment dans le cliché. Il y a vraiment ce côté je donne la voix à une enfance que soit j'ai moi-même vécu ou à laquelle j'ai témoigné, quoi, on va dire. Et c'est un truc qui est, je trouve, vraiment assez fascinant chez lui, quoi.
Moi, c'est comme Sarah, c'est Jurassic Park qui me vient en premier, surtout que ce que je trouve encore plus extraordinaire, et c'est ça qui est intéressant avec des réalisateurs qui ont un certain âge et qui ont commencé à une époque où le cinéma n'était pas ce qu'il était aujourd'hui et qu'il y a eu un énorme bond technologique notamment, c'est que tu vois vraiment les gens, que ce soit du cinéma ou autre, qui en parlent aujourd'hui, ils te disent à l'époque je l'ai vu au cinéma et c'était la première fois de ma vie que je voyais des effets spéciaux pareils, où t'as vraiment l'impression que c'est des gens qui sont avec des dinosaures devant eux. Et déjà quand tu le vois enfant, même sur cassette ou sur DVD, t'es émerveillé, alors je peux même pas imaginer ce que ça devait être sur le cinéma, au cinéma. Donc voilà, il y a ça. Après, pour le côté plus négatif, je peux pas m'empêcher de penser, en tant qu'océanographe de formation, aux dents de la mer, et malheureusement ça a fait beaucoup de mal à l'image du requin, qui est malheureusement un animal qui est très menacé d'extinction aujourd'hui. Enfin, ça dépend des espèces, mais pour beaucoup, malheureusement, ce film lui a fait beaucoup de mal, alors que c'est pas du tout l'animal le plus dangereux de la planète. Ça reste l'homme, et puis en deux c'est le moustique, et de très très loin. Donc voilà.
Ça fait aussi penser au film Orca, et là ça me met mal aussi par rapport aux orques aussi.
C'est assez en général, ouais.
Steven a du sang de requin sur les mains. Je crois que c'est assez globalisé à d'autres océans.
Cela dit, il me semble que lui-même avait dit qu'il s'en était rendu compte après coup.
Il est désolé, ouais. Non, ouais, Jurassic Park, évidemment, ça marque avec ses effets spéciaux. Moi, je me disais, peut-être il y a une personne qui va me dire l'image du vélo devant la lune, le logo de Anglin.
Évidemment,
peut-être,
on y pense aussi.
Très content que vous ayez dit la famille, je l'avais pas du tout prévu comme ça. Je le savais, je lis à vous comme dans un livre ouvert.
Qui aurait pu s'y attendre?
Non, et j'aime bien aussi dire cette phrase, alors je sais plus si c'est Steven lui-même ou quelqu'un d'autre lors d'un débat, mais qui disait que Les Aventuriers de l'Arche Perdue, donc le tout premier Indiana Jones, semble avoir ce pouvoir magique de donner envie aux enfants de faire du cinéma. Il y a tellement de réalisateurs, encore récemment, moi j'ai lu un témoignage de Edgar Wright qui disait il est sorti de l'été où j'ai déménagé, et comme ça restait tout l'été, j'ai pu le voir dans mon ancienne ville et dans la nouvelle, et c'est la première fois qu'il avait l'impression qu'il y avait un réalisateur derrière la caméra. Et je crois que Les Aventuriers de l'Arche Perdue, alors que Indiana Jones ne sert à rien dans ce film, mais c'est pas important, vraiment on s'en fiche,
il est là, il est badass,
à ce pouvoir magique. Mais aujourd'hui on ne va malheureusement pas s'intéresser à Indiana Jones, on va s'intéresser plus au film de science-fiction de Steven Spielberg, donc 9 à 10 films, non même un peu moins, j'ai essayé d'écarter Le Monde Perdu malheureusement, mais on essaye de se focaliser. Si on fait la liste des films de science-fiction de Steven Spielberg, on commence en 1977 avec Close Encounters. On va aussi pas revenir malheureusement sur ses courts-métrages des tout débuts où je crois il parlait déjà un peu d'étoiles. Donc 1977, Rencontre du troisième type. 1982, E.T., plus grand hit de l'histoire du cinéma, 5 ans après Star Wars. Ensuite, 1993, Jurassic Park, nouveau record. 2001, AI, Artificial Intelligence. Petit flop, mais succès critique. 2002, Minority Report, adapté de la nouvelle de Philip K. Dick. 2005, La Guerre des Mondes, E.T. est plus très très gentil. 2018, Ready Player One. Et 2026, donc Disclosure Day. Est-ce que déjà dans cette liste, vous avez un petit préféré?
Si j'écarte Jurassic Park, qui a une place bien spéciale, moi, pour préparer l'émission ici, j'ai découvert, je n'avais jamais vu, Minority Report. Et j'ai beaucoup aimé, je pense, même si je pense que c'est un film très imparfait, mais tellement intéressant, tellement actuel, malheureusement, j'ai envie de dire. Et non, j'ai passé un excellent moment, franchement. Qui l'a vu ici?
Moi.
Moi.
Toutes les mains, sauf celle de Mathias, se sont levées.
Bien, Victoria et Martin.
Mais pareil, moi j'ai beaucoup kiffé aussi. Je pense que, enfin, mon préféré c'est Artificial Intelligence. Mais il m'a fait peur.
Voilà. À cause des épinards.
Oui. T'as pas eu le temps de le voir.
Non, je l'ai pas vu.
Mais regarde-le. Mais comme je t'ai dit, il a une ambiance très, enfin, un film d'horreur comme ça. Et ouais. Il m'a beaucoup fait penser à Blade Runner.
La deuxième partie, c'est en trois actes. Mm-hmm. Vraiment. Enfin, on a l'impression, il y a pas un écran noir chapitre 1, chapitre 2, mais on sent vraiment trois parties distinctes, et celle du milieu cite explicitement Blade Runner.
Il y a une progression dans la structure narrative où on passe dans trois mondes différents dans un film.
C'est ça,
film, quoi.
Littéralement trois mondes différents. Ouais, et on l'a déjà dit, Spielberg est beaucoup dans la citation, pas juste de lui-même, mais aussi de tout ce qui est autour. Toi, Victoria, un petit préféré dans la liste?
Ah, c'est compliqué, en sachant que j'ai aimé tous les films de la liste, mais si je veux vraiment être objective, comme Sarah, Jurassic Park sera toujours mon classique dans mon cœur, mais si je veux vraiment parler en termes de vraiment gros coup de cœur récent, je pense que je vais être un peu toute seule, parce qu'apparemment on n'est pas vraiment unanime dans la table à aimer ce film, mais en tout cas ce serait Close Encounters, parce que j'ai beaucoup aimé ce côté fresque, un peu... culte, on va dire, de cette rencontre de l'inconnu, en tout cas de l'humain avec l'inconnu. Et j'ai beaucoup aimé le fait que ça se rattache vraiment aux racines du mythe de l'OVNI, on va dire, et que ça exploite ça pour parler de communication et aussi pour prendre Truffaut dans ton film aussi.
Oh, c'est ouais, génial. La combe.
T'as grandi avec ou tu l'as découvert adulte?
Non, j'ai découvert adulte parce que c'est un truc, c'est l'un des films qui manquait à ma cinéphilie. Je l'ai toujours pas vu, Alice de Schindler, me tapez pas, mais je compte le rattraper cette semaine. Mais en tout cas, oui, je l'ai vu récemment et je trouvais ça magnifique, en tout cas. Et ouais, il y a surtout la photographie qui est sublime. Enfin, quand tu vois les vaisseaux arriver, évidemment, c'est pas un spoil, mais quand tu vois les vaisseaux
c'est
arriver...
C'est l'affiche.
C'est vraiment le concept du film. Mais en tout cas, quand on voit les vaisseaux arriver dans les brouillards, enfin, le milieu du film, je pense, ce côté observation, je trouve ça vraiment très beau. Et surtout, il y a un plan qui m'a fascinée. En fait, on voit la maison de l'enfant, parce que je sais pas si je peux raconter l'histoire, parce que c'est
Oui, bien sûr.
Après, je l'ai vu il y a 2 mois, je me souviens juste que c'est un enfant, un jour, qui sort de chez lui, et en fait, il se fait choper par un extraterrestre qui repart avec, littéralement. Et la mère, elle crie à tout le monde, bon, mon gosse s'est fait kidnapper par quelque chose que je contrôle pas. Et évidemment, vu l'époque, etc., elle se fait prendre pour une folle. Sauf qu'il y a un mec dans une autre ville, ou c'est la
même... dans le même état, dans le même coin.
En fait,
ils se croisent à un moment.
Oui, en fait, il a la vision d'une motte de terre bizarre, et en fait, les deux font se connecter. Il y a un peu ce rapport, gens qui se connectent comme dans les que je redais,
bah
évidemment, on en revient tout le temps. Je reviens à mon plan. En fait, donc il y a ce plan comme ça où on voit la maison donc du gamin du début qui est à gauche de l'écran, proche de nous en premier plan, et puis derrière donc le ciel est peint un peu comme dans un tableau surréaliste comme ça. Je trouve ça magnifique. Okay. Et il y a un peu ce côté, faut avoir la ref. Mais si vous avez vu Tron le premier, j'ai beaucoup aimé les dégradés de couleurs dans le ciel. Ouais, enfin voilà, ça remonte. Enfin, c'est pas hyper connu. Mais j'ai beaucoup aimé ce plan, quoi.
Je pensais que t'allais dire celui où il est à l'intérieur avec la porte qui s'ouvre, avec genre l'enfer dehors qui reprend. Du coup, la prisonnière du désert, c'est pas la seule fois où il va le citer.
Aussi.
Voilà. Toi, Mathias, un petit favori?
Jurassic Park, au-dessus de tout le reste. Voilà. Après, j'en ai pas vu beaucoup dans la liste que t'as citée. J'avais même oublié qu'il en avait sorti en 2018, tu vois. Mais en fait, rendre compte du Tarzan type, ça fait partie des films que j'ai beaucoup aimé quand je l'ai vu. Qu'ensuite, j'ai vu d'autres films qui se traitaient du même sujet. Et avec le recul, je trouve moins bien, du coup, même si pour l'époque, j'imagine que c'était quelque chose.
Amen.
Et tu parlais de celui de Robert Zemeckis tantôt, Premier Contact, par exemple. Enfin, un truc qui parle d'alien et qui tombe pas dans plein de clichés vus et revus. Je trouve c'est pour ça que, depuis que j'ai vu Premier Contact, ça m'a un peu fait baisser mon avis sur Rencontre du Troisième Type. Voilà, après.
Pour ma part, je crois que je dirais aussi Jurassic Park pour le. Bah, en fait. Le propos qui est toujours d'actualité, qui continue, que ce soit avec l'émergence de l'IA ou en fait n'importe quelle nouvelle trouvaille qu'il faut remettre en cause, qu'il faut questionner plutôt que simplement la faire. Je pense que j'ai aussi Ready Player One qui a une place toute particulière dans mon cœur. C'était mon film préféré quand il est sorti.
Mais c'est parce que t'es jeune, ça.
Parce que j'avais 14 ans.
C'est ça.
J'avais lu le livre, c'était devenu mon livre préféré parce que j'étais un jeune nerd.
Quand j'avais 14 ans, c'était mon livre préféré aussi.
Mais non ! Et on n'en a jamais parlé ! Ah ! C'est le premier steelbook que j'ai jamais eu. Et non, Ready Player One aussi, c'est fort. Et c'est là même, moi je connaissais le livre par cœur. Et donc, du coup, je m'attendais à voir l'adaptation. Et ça commence, et tu fais, mais c'est pas du tout pareil.
Qui est ce mec?
C'est le même mec, mais tu vois, ça commence, c'est censé être un truc dans une grotte avec une liche, une borne d'arcade. Et là, on dit, voiture de course.
Pour adaptation, le monsieur, il est très.
Il est giga libre.
Il reprend le titre.
En fait, c'est juste une vibe. And I'm going with it.
On va revenir là-dessus, ça, on n'y manquera pas. Une question déjà pour remettre en cause, là on est assez dithyrambique quand même sur sa carrière, mais faut pas oublier que Steven Spielberg est un réalisateur très décrié, enfin tout au long de sa carrière, moins maintenant, mais qui pendant toute la première moitié, mais il était la lead Hollywood, vraiment rejeté de partout, qui était seulement pour le divertissement, seulement pour les enfants, et c'est des reproches que certains lui font encore aujourd'hui. Un motif qui traverse presque toute sa filmographie, j'ai l'impression que c'est le David contre Goliath. On a toujours des petits, donc littéralement parfois des enfants contre des grandes institutions. On a toujours ce motif de toutes les voitures noires de l'institution gouvernementale secrète. On a ça dans Disclosure Day. Ils ont combien de voitures dans ce film? Ils ont tellement de 4x4, de SUV noirs, mais une armée. Dans E.T., c'est aussi c'est la CIA ou cette cellule qui recherche sur les extraterrestres. Dans Minority Report, c'est littéralement des mecs avec des jetpacks qui se jettent contre Tom Cruise. Il doit faire un 1v8... à moitié tout nu contre des mecs qui ont des jetpacks. Enfin voilà.
Petit disclaimer, c'est pas la meilleure scène du film.
Ouais. Moi je l'aime bien. J'aime bien qu'ils aillent dans tous les apparts et tout. Le David contre Goliath, on peut se dire que c'est quelque chose qui devient presque normal chez Spielberg. C'est le petit contre le grand. Est-ce que c'est quelque chose qui vous dérange? C'est une méthode d'écriture quand même où j'ai l'impression à chaque fois un protagoniste. Enfin, c'est dans presque toutes les leçons de scénario, j'ai l'impression que le protagoniste doit avoir des obstacles face à lui qui rendent sa victoire improbable et qui font que ça fait une histoire et qu'il y a des défis. Et pourtant, avoir toujours ce David contre Goliath, est-ce que ça vous fatigue dans la filmographie de Spielberg? Est-ce que ça vous dérange?
Moi, je dirais que non. Enfin, je trouve que c'est aussi un classique en général, mais c'est quelque chose dans lequel tout le monde peut se retrouver. Et au final, c'est plus chouette. Tu peux plus facilement te sentir proche du personnage en sentant qu'il a des épreuves à surmonter. Et moi, justement, dans Minority Report, dans la première partie, le personnage du coup que Tom Cruise joue, il est super fort. T'as l'impression que c'est un surhomme, qu'il a rien à surmonter. Enfin, je sais pas, je le trouve moins intéressant que dans la deuxième partie où justement du coup là où l'action commence et il est en fuite et du coup là où le moment où les épreuves commencent, là je suis plus intéressé par lui à ce moment-là.
Il n'y a pas eu un meurtre à Washington en 25 ans. Il est parfait.
Mais non, je trouve que cette approche de David contre Goliath, ou par exemple si on transpose ça à Minority Report, l'individu face au système, c'est aussi vieux que les histoires elles-mêmes. Priscilla, tu le disais précédemment, mais c'est comme ça vient de la mythologie grecque aussi, du mythe grec. C'est vu et revu, mais quand c'est bien fait, moi j'ai aucun problème avec ça.
Toi, Victoria, tu voulais ajouter quelque chose?
pas spécialement. C'est un peu pareil que tout le monde en vrai. Mais c'est juste que, ouais, en général, ça me dérange comme Sarah, mais c'est vrai que, en soi, quand Spielberg il aborde, en général, je lui fais plutôt confiance parce qu'il arrive toujours à l'utiliser en tant que prétexte, on va dire, pour nous livrer une leçon, qu'elle soit humaniste ou autre. Et je trouve qu'elle a encore plus d'impact encore quand c'est l'enfant qui guide l'histoire, j'ai envie de dire.
Merci beaucoup. Pour commencer à faire des connexions avec le reste de sa filmographie, on a commencé à aborder ce thème dans la critique de Disclosure Day, mais s'il y en a un, pour moi, s'il y a un film de la filmographie de Steven Spielberg auquel se rapporte le plus Disclosure Day, c'est Rencontre du troisième type. Que ce soit par son thème des aliens, de comment c'est abordé, de son duo de protagonistes. Est-ce que... déjà, on l'a relativement dit... Ah, ouh.
Pardon.
Est-ce qu'on l'a déjà relativement dit avec Victoria? Est-ce que toi... Pour toi, Victoria, c'est aussi un reflet, l'un est un reflet de l'autre, ou est-ce que tu as vu d'autres films dans ce Disclosure Day ?
À fond. Enfin, je trouve que les deux se ressemblent vraiment beaucoup. Mais je pense que l'un est une réponse à l'autre, on va dire. J'ai l'impression que Disclosure Day, c'était une version, je dirais pas plus moderne, mais plus avec un esprit, enfin, une vision de Spielberg plus neuve par rapport au sujet, même si ça reprend pas mal beaucoup de trucs du film original. Mais oui, moi, j'ai vu d'autres films dans Disclosure Day aussi. Moi j'ai vu Arrival ou Premier Contact de Denis Villeneuve dedans, parce que ça parle beaucoup de la communication en tant que telle. Par exemple, Emily Blunt, le fait qu'elle ait ce pouvoir, on va dire, je sais pas où trop vous en dire, mais en tout cas, ce pouvoir, on va dire, de communication. Et puis, c'est pas vraiment l'intention de cette présence aussi qui est inconnue. Et ça me parle aussi. Bon, ça, c'est un terme un peu universel dès qu'on parle d'alien, évidemment. Mais ça m'a beaucoup fait penser à ce film-là aussi. Et j'avais aussi Mysterious Skin pour la scène de la chambre. Ça m'a beaucoup fait penser à ça. Parce que c'est dans les deux cas, enfin, dans les deux films, c'est une scène un peu. Maîtresse du film. C'est le film que je conseille d'ailleurs. Regardez du Greg Araki, ça fait du bien à la santé. mais oui, et ça m'a aussi fait penser à Signe de Jay Malan aussi, pour évidemment les signes dans le champ. Mais la façon de traiter les aliens aussi, cette peur de l'inconnu, encore une fois, ça m'a fait penser à ça. Mais oui, en tout cas, pour répondre à ta question, les deux films, je dirais qu'ils se répondent sans être jumeaux non plus. Et c'est deux visions différentes du film, et je trouve qu'il est beaucoup plus verbeux dans Disclosure Day. Il y a un côté plus démonstratif dans Disclosure Day, là où dans Rencontre du troisième type, vu que c'est la première fois qu'il parlait du sujet, il y a un côté immersion dans un nouvel univers, en fait.
Voilà. Moi, pour le coup, je reconnais tout à fait les qualités et l'influence de Rencontre du troisième type, mais je peux pas m'empêcher d'avoir trouvé le film terriblement désuet, en fait.
D'accord.
Et daté, ben forcément, en 77, c'est daté autant cinématographiquement parlant que voilà, le monde a changé aujourd'hui.
Ouais, mais Alien, c'est 78, et je trouve qu'il
exactement,
a pas...
Voilà. Mais donc, je suis quand même contente que ce film existe et qu'il ait inspiré des cinéastes et des cinéphiles depuis des générations. Et du coup, je trouve ça bien qu'avec Disclosure Day, il ait pu faire une petite update finalement sur le sujet. Je trouve ça très bien et j'ai hâte de découvrir ça.
Tout en étant un film selon beaucoup de vieux monsieur. Ça, voilà. Il faut le garder.
Oui,
en
oui,
tête.
Oui, mais quand même, je pense que ce ne sera pas la même vibe que Rencontre du troisième type où ouais, c'est les secoues volantes comme on les dessine enfants, quoi.
Moi, j'aime bien.
Ouais, mais au moins dans Mars Attacks, Tim Burton, il avait un peu caricaturé ça. Je trouvais ça plus intéressant.
À fond, par exemple. À fond.
Ouais, maintenant, en plus, les petits hommes verts, maintenant, c'est un motif mais qui devient presque comique. Il y a Paul, toute la comédie Paul, c'est sur le fait qu'on va trouver l'alien de la zone 51, qui a d'ailleurs une super scène où ils disent que Paul, c'est celui qui a donné l'inspi à Spielberg. Ils disent genre dans les années 80, Paul, il est au téléphone avec Steven, il dit non, mais Steven, un alien, c'est gentil, faut que t'aides notre cause. Mais bien sûr, Paul.
Aussi Scary Movie 3 dans un autre registre aussi.
Oh, oui,
voilà. Qui est une parodie de Signe. Voilà.
C'est vrai.
Mais regardez les Signes avant Scary Movie 3, du coup, ça c'est un petit conseil.
Et oui, on croit qu'ils veulent nous étrangler alors qu'ils veulent juste nous faire des câlins.
Oui, voilà, pour être gentil dans le terme.
Et bon, ah, il est sur moi, vous voulez vous faire des câlins. Pour se raxer sur la SF, il faut noter que donc Spielberg s'y attaque régulièrement, mais il s'attaque aussi régulièrement à l'adaptation en SF, quand même, sur tous les films qu'on a. Alors, Rencontre du troisième type est l'un de ses rares films où il a écrit le scénario, okay. Il n'y en a trois, où Fabelmans il a coécrit, Rencontre du troisième type il a écrit, je crois qu'il y en a un troisième, je ne sais pas. Bah AI, où il l'a fait en collabo, mais il l'a repris de Stanley Kubrick quand même. Jurassic Park c'est un livre, Minority Report c'est un livre, La Guerre des Mondes c'est un livre, Ready Player One également, AI c'est repris d'une nouvelle, mais qu'il a librement remanié à son aise pour reprendre notamment Pinocchio, même s'il s'appelle Super Toys Last All Summer Long, donc les super jouets durent tout l'été, ça vient de là, AI.
Littéralement.
Et qui est un projet qui de base était fait par Stanley Kubrick, mais qui était un peu occupé avec un petit projet qui s'appelle Eyes Wide Shut, et qui après était un peu occupé par la mort.
C'est ça.
C'est donc quelqu'un qui s'attaque beaucoup à la fois à l'adaptation, mais qui est très libre dans cette adaptation. Et à cet exercice-là, on a notamment Priscilla qui a lu Minority Report au préalable et donc qui peut voir les différences et les points communs. Elle a même fait un magnifique post Insta à ce propos. Est-ce que tu peux éclairer notre lanterne sur les libertés qu'a pris Steven Spielberg pour ce film ? Je vais y arriver.
Mais je dirais déjà que ça n'a rien à voir, mais moi je préfère quand même son adaptation du coup. Et ça fait partie de ces cas. Moi je suis très pro adaptation et je pense que le cinéma en général c'est quelque chose qui est prompt à l'adaptation. Du coup, je préfère la manière dont il a décidé de reprendre le sujet et de s'intéresser plus au personnage et peut-être d'adapter le personnage aussi à la figure de Tom Cruise, ouais. Qui, vu que c'est l'acteur principal, pouvait pas vraiment reprendre le même rôle que le personnage dans le livre. Mais du coup, est-ce que je spoil le livre ?
Vas-y.
Mais il est vieux, hein, c'est pas grave.
Philippe K. Dick, je crois qu'il est mort depuis un bail, on va dire.
Il y a très très longtemps, et je suis vraiment désolée. Paix à ton âme, Philippe. Mais je ne suis pas très fan de la manière dont il l'écrit. Et moi, je pensais que le livre, du coup, quand je l'avais lu, ça allait être par rapport à la surveillance de masse. Mais pas tant, au final. Et ça se porte plus, du coup, sur un fonctionnaire vieux et chauve. Littéralement, c'est comme ça que le livre commence. C'est « Je suis vieux et chauve ». Mais bro, ça va aller.
Tu vas t'en remettre.
Vraiment.
He's torturing people with hair.
Mais et du coup, ça le suit, lui, qui subit un complot entre la police, la police, du coup, et les militaires. Et la fin, c'est lui qui choisit, du coup, de maintenir le système, le statu quo. Et c'est pas quelque chose auquel tu t'y attendrais d'un auteur de science-fiction d'anticipation, parce que tout le propos, du coup, c'est de prévenir les gens des dérives du système. Mais en fait, là, il a en place un personnage qui supporte le système et qui va jusqu'aux dernières limites pour pouvoir continuer à imposer ce système. Et le système n'est jamais vraiment critiqué. Et à plusieurs moments, d'ailleurs, dans le livre, on parle de camps de concentration pour les futurs criminels qui n'ont jamais été arrêtés. Mais du coup, moi, je préfère clairement la manière dont Spielberg le met en place. C'est beaucoup plus intéressant. La fin même est plus intéressante aussi. Et mais voilà, je trouve que le personnage est plus... je sais plus qu'est-ce que j'ai
okay. Et tu m'as dit aussi que c'était un roman très court, alors que le film est plutôt long, c'est 2h25, je
crois. C'est un bon paquet, ouais.
Ouais. Mais moi, le film, je l'ai trouvé hyper bien rythmé. Est-ce que le livre, au moins, quitte à être court, et t'as peut-être pas trop aimé le propos, mais au moins, est-ce que ça se lit facilement ? Est-ce que c'est rythmé comme le film ?
Mais justement, il se lit hyper facilement, mais il est pas du tout rythmé parce que... Parce que je sais pas qu'est-ce qu'il a, Philippe, mais comme il l'a décrit son personnage comme étant vieux et chauve et un peu gros, il lui fait pas faire beaucoup d'action.
J'allais dire, est-ce que le personnage chauve court aussi vite que Tom Cruise ?
C'est ça. Non, c'est pas, il court un peu jamais. Du coup, la poursuite qu'il a avec la police qui essaye de l'attraper, c'est pas aussi intéressant et il y a pas vraiment d'action. C'est lui qui part et puis qui revient et qui se rend compte de toute la machination et qui décide
d'accepter
de suivre ce que les précog avaient décidé pour lui. Du coup, voilà, c'était vraiment... Mais il se lit vite, voilà. Vous pouvez y aller, les amis.
C'est son seul avantage.
Ouais, exactement. Et du coup, moi, j'étais vraiment choquée parce que sur les recommandations, enfin, les notes en ligne, c'est genre 3 sur 5.
Le livre ou le film ?
Le livre.
D'accord.
J'étais en mode bord.
C'est alors, dur.
Je dirais pas jusque là. Je lui donnerai un 2, voire 2,5 pour être gentil.
Wow.
Mais en fait, je trouve que Philippe, c'est pour ça que ses livres sont très souvent adaptés. C'est parce qu'il a des très bonnes idées, mais je trouve qu'il les réalise pas bien et ça se ressent du coup dans le bourg. Sa carrière, ben, elle a jamais pu avancer correctement parce que ses livres, ben, ils ont jamais été si populaires que ça.
Ça va, il a fait Blade Runner aussi.
Et mais justement, ses livres ont jamais été populaires de son vivant. C'est mort que ça a pris de la popularité. Je pense que c'est grâce au film, ses adaptations en fait, qui l'a permis de garder de la popularité, mais en lui-même, la manière dont il écrit, c'est pas si intéressant, je trouve, mais il a toujours des très bonnes idées. Mais ouais, Blade Runner, je vous le recommanderais un peu plus que Minority Report. Il est plus chouette à lire encore.
Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques si vous déjà
Et je dirais que le seul truc que je trouve intéressant avec lui, c'est que du coup, il prend toujours des personnages qui sont un peu lambda, toujours le fonctionnaire, le petit policier, et qu'il les met du coup au sein d'univers vraiment particulier et surréaliste, mais dans le futur. Et ça, je trouve ça intéressant. C'est jamais vraiment des grands héros, etc.
Contrairement aux adaptations cinématographiques. Ouais,
exactement.
Bah, sur d'autres adaptations, il y a des points vraiment capitaux aussi. On sait que pour Jurassic Park, il a complètement changé le personnage de John Hammond pour être un reflet de lui-même, mais qui est capital. Pour moi, c'est l'une des grandes valeurs du film. Mm-hmm. Alors que dans le livre, c'est juste un méchant Walt Disney, apparemment. Et à la fin du livre, juste pour... Alors, petit spoiler, mais pour vous dire, c'est très différent du film. À la fin du livre, il fait exploser l'île avec une bombe atomique. C'est la vraie fin du film. Et c'est tellement loin que... C'est tellement éloigné du livre originel qu'ils ont, pour la... communication du dernier Jurassic World, ils ont dit on adapte enfin l'une des scènes du livre qui a jamais été faite avant, qui est celle de la rivière, que tout le monde adorait dans le livre et ils l'ont jamais faite au cinéma. On sait que pour War of the Worlds, bah, il l'a rendu contemporain. En plus, le héros normalement est astronome, donc il peut voir les aliens. Là, c'est Tom Cruise qui est dans une grue, qui travaille dans un port. Et Ready Player One, on l'a dit avec Sarah, que ça s'éloigne beaucoup du livre, mais je crois que ce n'est pas pour nous déplaire.
On en parlera après.
On en parlera après. Maintenant, il y a un film dont on n'a pas encore beaucoup parlé, mais sur lequel j'aimerais revenir parce qu'il est très personnel et il traverse plein de thématiques du cinéaste, que ce soit l'enfance, mais aussi l'autre ou l'identité. C'est AI, Artificial Intelligence, que beaucoup disent qu'il est extrêmement personnel au réalisateur, sinon son plus personnel. Et Victoria, tu aimerais nous en toucher un mot?
Oui, j'ai même écrit une chronique, ça fait longtemps que j'avais pas fait ça, mais juste pour vous, voilà, le film m'a beaucoup inspiré, donc j'ai écrit des petits trucs un peu rigolos ou qui peut-être pourraient vous donner envie de voir ce film qui, je trouve, un peu un flop injustifié. Enfin, peut-être qu'on avait des attentes à l'époque d'un certain film de Spielberg, mais je trouve que ce film mérite d'être vu, voilà.
Il a commencé une vague de flop pour lui-même, d'ailleurs.
Oui, oui, oui. Et je trouve que c'est un peu injuste, mais voilà. AI, ça parle de quoi ? Imaginez, donc c'est une dystopie, donc c'est dans le futur. Imaginez qu'on puisse remplacer des enfants dans foyers endeuillés. Voilà, donc les parents ont perdu leurs enfants. Mmh. Et donc, c'est un futur où on limite la naissance parce qu'il n'y a plus beaucoup de ressources. Et donc, il faut même avoir un permis de grossesse pour pouvoir pondre. Donc, voilà, c'est super l'ambiance. Et donc, il y a un ingénieur qui a déjà fait plein de robots et tout. Il se dit, je vais faire un robot enfant pour soigner, on va dire, le deuil d'une famille endeuillée parce qu'il y a leur enfant littéralement. On n'a jamais su ce qu'il avait, mais en tout cas, il s'appelait Martin, bah voilà.
Coucou.
Je pense qu'il y a eu un accident, mais en tout cas, il est dans le coma. Et donc, ils vont inventer donc David, qui est un robot enfant qui va remplacer ce deuil. Et donc, il va arriver, et petit décalage, parce qu'évidemment, comme c'est un robot, il n'a pas tous les codes pour être un enfant normal, avec des gros guillemets, donc évidemment, ça nous donne des petits moments de cringe. Sauf que, plot twist, au moment où ça commençait un peu s'acclimater dans la famille, il se trouve que, surprise, en fait, Martin, il va mieux, et il réplique, et sauf que l'entente entre les deux, c'est pas hyper robot fixe, quoi. Et ça va mener à des petites discordes et au rejet de David. Et ça, donc là, il va commencer une quête. C'est pas un spoil, mais en fait, il veut essayer de trouver la fée bleue pour être accepté de sa mère. Et donc là, on commence déjà à être dans la thématique de la famille. Et il faut sachez que ça fait partie des films qui se réfèrent à un classique Disney, truc très récurrent dans les films de Spielberg, jusqu'à en calquer la structure narrative, mais qui arrivera à aller plus loin que le conte d'origine en nous livrant une leçon sur l'humanité. Et ici, la leçon te chope à la gorge avec ténacité pour t'avoir par les sentiments et que tu le veuilles ou pas, par les larmes. Au début, j'avais un peu du mal à aimer, voire à entrer en empathie avec David, donc l'enfant robot, parce que bah, vu qu'il est robotique, il est cringe, et le film en joue. Et puis par sa nature, il rendait mal à l'aise Monica, donc la maman du film, et vu que jusqu'à présent, elle faisait partie des protagonistes, et que par essence, on a tendance à repousser ce qui nous fait froid au dos, petite référence à Ari Aster qui a compris ce mécanisme, et plus récemment à Obsession, j'avais pas trop avec moi David. Mais finalement, les pôles s'inversent, et figurez-vous que ça faisait longtemps que je n'étais pas tombée amoureuse, platoniquement, de personnages de fiction, et ici j'ai adoré David, Joe, donc joué par Jude Law, qui est un robot d'amour, qu'il va rencontrer dans son périple, et c'est Teddy, donc il y a un petit ourson robotique aussi qui va être son jouet. Ouais, le temps presse, donc j'essaie de finir vite. C'est fou parce que je ne recommanderais pas forcément AI à des enfants, en tout cas pas ceux qui ont moins de 12 ans, parce que là, il y a quand même des scènes d'écartèlement de robots, voilà, pour sans spoil. Et la profession de Joe, donc robot d'amour, c'est évidemment un euphémisme. Je vous laisse deviner ce qu'il fait dans la vraie vie. Et c'est pas trop un truc que je ferais voir à des enfants en termes de carrière, on va dire, quand t'as moins de 12 ans, en tout cas. Mais ça permet tout de même, parmi la noirceur du dystopisme du film, à nous faire rêver et espérer à travers un onirisme universel, car a pour dessein quelque chose qui nous touche tous et toutes, avoir une famille qui nous aime. Et je termine sur le fait que en fait c'est un peu une sorte de Les Fils de l'Homme croisé à Blade Runner, je trouve.
C'est vrai, voilà. C'est très vrai. On et arrive Pinocchio. Au terme malheureusement de cette émission, on va devoir vous laisser. J'avais encore plein de questions que j'aurais adoré demander au reste de nos invités, parler du thème de l'autre qui est intrinsèquement lié à la famille, ou celui de la communication qui pour moi explique toute la filmographie du réalisateur. Si on a le David contre Goliath, cet underdog complet, bon, on le voit dans The Fableman, c'est malheureusement Spielberg est complètement affecté par le divorce de ses parents qu'il y a eu quand il était petit, et le fait que la communication soit aussi importante dans ses films, rien qu'avec Rencontre du Troisième Type ou Disclosure Day, il a la capacité à communiquer avec d'autres, à communiquer avec un littéral extraterrestre, et que sa mise en scène soit toujours qualifiée de limpide, qu'on comprend totalement juste avec son image. Je pense que c'est juste une personne qui a essayé d'être compris par le monde, et j'avais envie de vous demander, est-ce que pour vous Spielberg a réussi à se faire comprendre par le monde, ou justement il reste incompris et c'est ce qui fait son cinéma? Mais j'imagine que vous devrez répondre à cette question par vous-même. Je remercie toutes les personnes à cette table pour cette émission qui a été celle que j'ai passé le plus de temps à préparer. Ça a été un plaisir. Merci beaucoup Victoria.
Merci à toi.
Merci beaucoup Priscilla.
Merci à toi, c'était trop bien organisé.
Merci beaucoup Sarah.
Merci, c'était trop cool.
Et merci à toi Mathias.
Salut, à la prochaine.
Merci à tout le monde et passez un très bon mercredi. À la semaine prochaine.
Ciao.
Au revoir.